RMC.
Oh, c'est gonflé. Oh, c'est gonflé. Oh,
Basket Time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie.
C'est fini, champion d'Europe de basket, messieurs dames. Jacques Monclar est aux anges, on est tous aux anges.
Pierre Dorian.
C'est parti pour Basket Time, votre podcast basket, tous les mardis sur rmc.fr. Avec la Dream Team, attention, aujourd'hui... Elle est représentée par Frédéric Weiss. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Par Geoffrey Charpille. Salut Geoffrey.
Bonjour mon petit Pierrot.
Et Stephen Brun. Depuis Manille aux Philippines à la Coupe du Monde basket. Vous vous rendez compte que Basket Time a un envoyé spécial à la Coupe du Monde de basket.
Qu'est-ce qu'on est plus
incroyable. Incroyable, non? Et on a franchement, on a gagné en notoriété. Du coup, on a beaucoup plus d'oseille. On envoie des mecs à Manille maintenant.
Hein. Alors qu'il n'y a même pas la France.
On te parle beaucoup de Basket Time là-bas, Steve, même si les deux sont éliminés.
Il y a un Philippin qui m'a dit « I love Basket Time and I love Pierre Dorian. He's amazing.
» Tu l'as dit, surnommé « The Nose ».
Big nose.
Dans le milieu. Alors, c'est un Basket Time spécial Coupe du Monde de basket. Il y a des très beaux thèmes. Là, je suis très content du menu, messieurs. D'abord, les Bleus, on y retourne. L'élimination au premier tour, est-ce que c'est la honte? Êtes-vous d'accord avec Tony Parker, qu'on va réécouter? C'était dans une excellente émission Stephen Time sur RMC. Deuxième thème de ce Basket Time, que vaut vraiment Team USA, qui a étrié l'Italie en quart de finale? Et puis, notre débat historique. Quelle est la meilleure génération? Sydney 2000, celle de Fred Weiss. L'Euro 2013, Tipeee et Boris. En Slovénie, le titre de champion d'Europe. Ou Tokyo 2021, avec encore une médaille d'argent olympique. C'est un très très beau débat qu'on va faire ensemble. Est-ce que vous voulez tout de suite le thème du quiz ou on découvre la dernière minute?
Oui.
Oui, pourquoi pas.
Ouais,
pourquoi.
Le thème du quiz, alors vu que c'est un spécial Coupe du Monde de basket, ce sont les Américains qui ont eu un impact en Europe, alors soit dans un club, soit en Coupe du Monde. Voilà.
C'est quoi
les Américains, les joueurs américains qui ont eu un impact en Europe.
Les Américains qui ont eu un impact en Europe, voilà. D'accord. Quel rapport avec la Coupe du Monde?
Bah, parce que certains se sont illustrés en Coupe du Monde dans des sélections étrangères, par exemple.
D'accord. Comme Jerry Holden, des trucs comme ça, quoi.
Exactement. Il n'est pas dans le quiz. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti pour Basket Time spécial Coupe du Monde de basket sur RMC. Go inside, go bear. Nice look to the rolling big.
Oh, to Nicolo! Oh, how about that? Okobo. Oh, loses it, but somehow the sword holds onto it. Oh, spin move. Left hand, touch off the glass. Seconds. Fournier, nice floater. Tips. Oh, a miss by Gobert. It's a two-point game. Fournier almost turns it over. Francisco, he has a look, and it's off the rim, and Latvia wins! Latvia makes history! Oh, goodness me! Latvia!
Il est terrible ce commentaire là, mais en même temps c'est rigolo. Maintenant qu'on a un peu de recul, non mais ça va, c'est pas un drame non plus, hein. Vaut mieux s'échouer là que dans un an au JO, non?
Oui, mais on peut faire les deux. Hein.
Oui, c'est vrai, c'est ça le problème, tu as raison. Alors cette Coupe du Monde a déjà réservé pas mal de surprises. On revient sur l'élimination des Bleus parce que c'est quand même la principale. C'est le plus gros choc de cette Coupe du Monde. Et alors Tony Parker, qui était l'invité exceptionnel du show événement de la rentrée sur RMC, Stephen Time. Et bien Tipeee a eu des mots durs. Est-ce que vous partagez cette analyse? On va l'écouter tout de suite.
Là, on a vraiment vécu un fiasco. J'en ai parlé longtemps avec Nicolas Batum. Ouais. On a parlé pendant une heure au téléphone et c'est vrai que c'est très très décevant. Ça c'est sûr. C'est pas normal qu'une équipe comme ça perde au premier tour. On n'a jamais vu l'Espagne ou les États-Unis perdre comme ça au premier tour. Et c'est dommage parce qu'avec la France, on a tellement travaillé dur avec ma génération pour ramener l'équipe de France à un certain level pour qu'on se fasse respecter par la FIBA, par les arbitres, par les autres pays. C'est tellement dur d'avoir du respect et on avait enchaîné des belles performances. En plus, récemment, on a eu 3 belles médailles et c'est vraiment dommage de perdre au premier tour comme ça. Mais c'est quand même pas normal qu'on perde au premier tour comme ça. C'est vrai que c'était un peu la honte.
C'était un peu la honte. Alors, est-ce que vous partagez cette analyse? D'abord sur les bons employés. Alors, c'était un peu la honte, hein. C'est pas non plus d'une violence absolue, hein. On est bien d'accord. Hein. Mais non, mais c'est vrai que Tipeee est quand même très protecteur avec l'équipe de France. Voilà, on s'attend pas forcément à ce qu'il dise ça, même si ses propos sont tout à fait corrects, y a pas de souci.
Hein. Il est aussi protecteur avec ses résultats en équipe de France, Tipeee.
Alors, en l'occurrence, oui, parce qu'il a bien rappelé que sa génération a gagné le respect de la FIBA.
Il a pas tort, on partait de très très loin. Sa génération a permis à situer la France sur la carte quand même, quelque part. Donc, moi, je peux comprendre.
Et alors, est-ce que c'est la honte, Fred, pour toi, la sortie au premier tour ?
Ben, ça dépend de quoi tu me parles. Si tu me parles sportivement, je me dis, t'es dans une poule où finalement, t'as la Lettonie et le Canada qui jouent quand même très très bien au basket, qui font des perfs et qui montrent des choses hyper intéressantes. Donc, sportivement, comme dirait Fournier, ben, on est où on mérite d'être, concrètement. C'est la honte quand tu annonces que tu vas gagner l'or et que tu reviens au premier, que tu passes pas le premier tour. Là, par contre, c'est un peu plus difficile, oui.
Canada et Lettonie qui sont tous les deux en quart de finale. C'est la seule poule d'où sont sorties deux nations pour les quarts, hein. Donc, on précise quand même.
T'as bien bossé. Donc, il faut relativiser par rapport à ça. Sportivement.
Alors, je sais pas est-ce que ça nous fait relativiser, oui ou non. Ben, parce que le Canada, quand même, est tombé de haut aussi. C'est contre le Brésil, hein.
Mais le Brésil, ils ont fait juste le match parfait avec le tempo parfait pour vraiment les embêter. Ils avaient eu le temps de s'adapter à leur jeu et ils n'avaient rien à perdre, les Brésiliens. Ils savaient que s'ils perdaient de son, ils étaient éliminés. Donc, il fallait absolument qu'ils gagnent. Donc, ils ont joué leur va-tout. Ils ont joué ça, cette option qui a fonctionné. Mais le Canada est quand même une équipe fantastique. Et les Lettonie, ils l'ont prouvé aussi. Même s'il manque des joueurs, c'est une équipe qui a du cœur, qui joue très, très bien au basket et qui a posé des problèmes à beaucoup d'autres équipes, notamment au Brésil.
Est-ce que c'est la honte, Geoffrey ?
Que la Lettonie, le Canada, ils jouent très bien au basket, c'est pas le souci. On est l'équipe de France, on est vice-champion olympique et on n'arrive pas à sortir du premier tour d'un mondial. C'est-à-dire que derrière, l'Espagne s'est fait taper, l'Espagne a pu réussir à aller au deuxième tour, derrière ils se sont fait sortir. Ok, tant pis, mais ils ont quand même réussi à franchir le premier cap. Pour moi, les mots de Tony Parker, il parle de fiasco, il parle d'échec, il parle de honte. Et je pense qu'il a raison, parce qu'on termine 17e ou 18e, je ne sais plus exactement.
17, je crois.
Voilà, ouais, 17, parce qu'on a gagné contre la Côte d'Ivoire. Sans ça, si on n'organisait pas les Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris, on n'aurait pas été qualifié pour nos Jeux. Et je trouve ça totalement scandaleux quand je vois qu'on n'a que des joueurs pratiquement estampillés NBA et que les Lettons ont réussi à nous battre sur un plan de jeu tout simple.
Qui sont les joueurs estampillés NBA de l'équipe de France ?
Eh ben, on a Evan Fournier, on a Leader Robert, en tout cas. Voilà.
Ouais, t'as trois joueurs. Evan Fournier qui n'a pas joué de l'année. Nicolas Batum qui est quand même un peu sur la fin. Et Rudy Gobert qui a connu une saison très compliquée et qui n'avait pas très envie de venir en équipe de France. Donc
ça veut dire que
tu as trois joueurs vraiment estampillés NBA.
Ouais, c'est les joueurs européens. La Lettonie nous a ouvert.
Mais c'est juste pour recadrer le truc.
On a pris 25 pions d'un joueur, d'un meneur letton qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam juste avant la rencontre.
Enfin, toute la compète. Il y a des mecs qui ont pris 15 points de Zagars.
C'est un vrai joueur de basket. Moi, je trouve qu'on est dur avec les Lettons. Et là, tu es vraiment dur avec ce joueur, justement, parce qu'il a été bon tout le temps.
Oui, mais avant la compétition, personne ne le connaît.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas exploser à une compétition. Je trouve ça dur, moi.
Est-ce que c'est une honte, Steve, pour toi ?
Une honte. Alors, là, justement, à Mani, dont tu croises beaucoup de journalistes avec qui on discute en salle de presse, et c'est vrai que eux, ils nous demandent vous venez d'où. Je dis on vient de France. Ils me disent pourquoi vous êtes là.
Dégagez maintenant. C'est fini.
Mais eux sont, ils emploient pas le mot honte, mais pour eux, ça a été une énorme surprise en fait de pas voir les Français ici à Mani pour les phases finales. Donc honte. Je sais pas si c'est une honte parce qu'il y a un paquet d'équipes qui se sont déjà crachées. Est-ce que quand Team USA à la Coupe du Monde 2019 fait 4e ou 5e, est-ce que c'est une honte? Oui, c'est une honte.
Je pense qu'ils sont pas ravis quand ça leur arrive. Hein.
Non, bien sûr que non, ils sont pas ravis. Après, Fred a raison de le dire, c'est à partir du moment où tu as établi des performances régulières ces dernières années en étant systématiquement sur le podium et que tu arrives à la Coupe du Monde avec des ambitions hautes, parce que quand tu as fait médaille d'argent et médaille de bronze, c'est vrai que ce qui te manque, c'est la médaille d'or. Et quand tu clames haut et fort, et à juste titre pour moi, que tu veux être champion du monde et que tu passes pas la première phase, oui, c'est une honte vis-à-vis des autres que tu as prévenu, que tu voulais être champion du monde. Après, Geoffrey me parle de l'argument des joueurs NBA. Aujourd'hui, je crois que ça veut plus rien dire. Tu peux avoir des joueurs NBA et passer totalement à travers une compète, et tu peux avoir une équipe composée de bons joueurs européens et d'Euroleague et faire un très beau tournoi. Je crois qu'aujourd'hui, la référence NBA dans le basket FIBA, elle compte pour les énormes superstars. Et nous, on n'en a pas dans notre équipe. Luka Doncic est une énorme superstar. Il emmène la Slovénie en quart de finale. Bogdanovic est une superstar NBA, mais qu'un fantastique joueur NBA et fantastique joueur FIBA. Il emmène la Serbie avec d'autres qualités, hein, en quart de finale. Donc, une honte. En fait,
Le mot est fort, mais en fait, quand Tony le prononce, je ne sais même pas si. Pour lui, c'est pas méchant en fait, de dire
non,
que c'est une honte.
On parle de fiasco, c'est un peu la honte.
Non, mais il doit être déçu. Stephen, je peux comprendre que quelqu'un qui s'est donné autant pour l'équipe de France, cette performance-là, bah forcément, elle lui fait mal au cœur. Comme à nous tous, réellement.
Moi, il y a un truc sur lequel je veux revenir, c'est que toi, tous les deux, que ce soit Fred ou Steve, vous avez mis en perspective l'annonce, l'ambition et le résultat. C'est-à-dire dire, oui, on est là pour être champion du monde et on sort au premier tour. Pour moi, ça n'a aucun rapport, en fait. Parce que tu es tout à fait légitime à viser une médaille d'or. Tu es vice-champion olympique, tu es tout à fait légitime à viser une médaille d'or.
Pierre.
Mais moi, ce que je me pose comme question, et c'est là où je suis plus inquiet, c'est que je ne sais pas si c'est une contre-performance, si c'est une réelle contre-performance. Est-ce qu'aujourd'hui, on est au-dessus du Canada? Je ne crois pas. Est-ce qu'on est au-dessus de la Lettonie? Peut-être. Mais j'ai besoin que l'équipe de France me le prouve encore maintenant là.
Non mais je te rejoins. Ouais.
Donc je sais pas si on peut parler de honte, de fiasco.
Quand tu prends 30 pions contre le Canada, ça fait tâche. Le Canada peut être une très belle équipe.
Mais est-ce que si on les rejoue demain, on est capable de les taper?
Demain? Non, parce qu'on n'est plus là. Ils sont rentrés.
Non mais tu comprends ce que je veux dire?
Ouais,
on a un an jusqu'au JO, donc ça, on ne sait pas à quel niveau on sera au JO.
On ne sait pas à quel niveau sera le Canada non plus, hein, parce qu'il manque des joueurs.
Il manque deux joueurs très importants demain ou dans un mois.
Le Canada va être beaucoup plus fort.
Potentiellement, parce qu'on sait toujours que le Canada, sur le papier, ils ont une équipe fantastique et elle n'est jamais vraiment.
Donc c'est inquiétant ce que tu dis.
Ah ben, moi je suis inquiet depuis longtemps, évidemment. Mais moi je te rejoins pas quand tu dis. L'annoncer, c'est normal, etc.
Ah oui, pourquoi pas.
Sauf que tu imagines, t'es l'équipe d'en face. T'as quelqu'un qui te dit, je veux être champion du monde. Tu les tapes. Qu'est-ce que tu fais, le premier truc?
Oui, mais Fred, il n'y a pas que nous qui avons...
Le premier truc que je fais, le mec d'en face de moi, déjà, j'ai envie de le tuer. Et donc, j'ai envie de gagner. D'accord?
Mais ça, il faut l'assumer.
Et ensuite, à la fin, quand il passe au premier tour, je dirais, bande de rigolos,
rentrez chez moi. Fred, si on ne le dit pas, tout le monde l'a fait pour nous. Tous les coachs adverses.
Que les autres le disent, ce n'est pas grave. Moi, ça me va très bien. Et je suis d'accord avec toi, sur le principe, sur le papier, au départ, j'étais à peu près de cet avis. Sauf que quand tu commences à te mettre ça dans la tête, quand tu commences à le dire toi-même, moi, je trouve que ce n'est pas pareil.
Après sur le mot honte, ce qui est honteux, c'est la façon dont on a joué au basket.
C'est vrai.
La façon dont on a joué au basket, elle est honteuse. Parce que déjà, on a perdu notre ADN défensif qui n'existe plus. Parce que parfois, il y a eu des compétitions où en attaque, on n'était pas si brillant que ça. Mais notre défense nous permettait d'être encore dans les matchs et de gagner sur les fins de rencontres serrées. Là, on a tout perdu. On a perdu notre lien collectif en attaque. Et défensivement, on n'est plus l'équipe de France. On n'est plus ces joueurs-là qui coupons les lignes de passe, qui est une sorte de Team USA, mais avec des qualités comme ça aussi, de super athlètes qui empêchent les autres attaques de se mettre en place. On n'a plus ça. Et c'est pour ça qu'on prend 30 pions contre les Canadiens, parce qu'on attaque, on est kata et qu'on ne fait plus un stop. Et c'est pour ça que les Lettons nous mettent 86 pions aussi, parce qu'on ne défend plus. Et la façon dont on a joué au basket, c'est une honte par rapport à ce qu'on a pu produire par le passé.
La question du coup, c'est pour l'année prochaine, est-ce que vous pensez que tout va changer dans ce que vient de dire Stephen? Est-ce que Vincent Collet va exiger qu'on revienne à d'autres standards, un jeu peut-être plus européen, plus défensif, ou est-ce que finalement la direction qu'il a prise peut aussi être la bonne?
Je pense que Vincent Collet est quelqu'un de très intelligent, un coach très compétent, et il sait très bien que défensivement, et Stephen l'a très bien dit, on a été bousculé dans tous les duels, on n'a pas réussi à monter un ballon, on a pris pratiquement 90 pions à chaque match. Il sait très bien qu'on ne peut pas gagner une compétition FIBA, voire même les Jeux Olympiques, en restant à ses standards. Donc je pense qu'il va s'adapter.
Oui, mais il a bien pris cette direction-là à un moment. Il a assumé le fait qu'il avait peut-être des joueurs pour jouer comme ça, et pourquoi pas. Et il l'a assumé.
Oui, mais
c'est pas un accident de plus défendre.
Oui, mais
ça a été une direction prise par la direction.
Mais peut-être que t'as plus les joueurs pour défendre aussi.
Déjà,
sur ton poste 1-2, sur ton 5 majeur, quand tu penses à Nando De Colo et à Evan Fournier, tu penses que c'est vraiment les plus grands défenseurs?
Ça n'a jamais été les stoppers.
Le problème, c'est
qu'ils ont été entourés de stoppers.
Sauf qu'on a des mecs qui sont en train de prendre un petit peu d'âge. Un Rudy Gobert qui a été moins déterminant que d'habitude. Et bien, quand t'as pas un protecteur de cercle et que devant tu défends pas, bah, tu prends des points.
Après, t'as Franck Ntilikina qui va peut-être revenir.
Ntilikina, et ça, c'était un gros coup dur pour l'équipe de France, pour moi.
Sif, sur la stratégie pour les Jeux, tu penses quoi?
Sur la stratégie pour les Jeux, bah déjà, il faut retrouver une certaine cohésion d'équipe qui, je pense, à mon sens, on a perdu. Cette cohésion d'équipe, l'amour qu'on a pour jouer ensemble sous le maillot bleu, je pense qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui sortiront peut-être un peu plus tard, mais je pense qu'il y a eu des conflits en interne.
Ah, carrément.
Quand tu perds comme ça au premier tour avec tes favoris, t'as forcément des choses qui explosent, Pierrot.
Tu fais dans le basket time, hein. C'est-à-dire que si tu sais, tu dis, sinon je te vire.
Je sais que Rudy était un petit peu isolé. Rudy était un petit peu isolé dans le groupe parce que Rudy déjà voulait pas venir et puis peut-être que lui il faisait Rudy était un petit peu isolé.
Il touchait pas assez de ballons apparemment, il était pas très content de la façon dont il a été utilisé, il y a eu une frustration personnelle
et il a fait un petit peu la gueule, mais c'est obligé qu'il y ait moins d'osmose quand tu te fais sortir au premier tour comme ça. Des choses qui explosent, donc il faut retrouver ça, il faut retrouver des soldats capables de donner envie aux autres de défendre, mais t'es obligé de retrouver une assise défensive, et pour ça il faut injecter un petit peu de sang frais. Je pense qu'il faut des nouveautés dans cette équipe de France. Là on est sur un train-train quotidien qui dure depuis pas mal d'années, que ça soit dans le staff, que ça soit dans les joueurs qui ont leur spot. On peut rediscuter aussi le fait que Vincent, parce que la prépa était courte, a pas voulu instaurer une espèce de concurrence sur la prépa, donc quand t'arrives et t'es dans les 12, et ben t'as aussi un petit confort personnel et qui est tout à fait légitime, et je pense qu'il y a besoin de nouveautés dans cette équipe là, que ça soit sur
qu'on appelle Kenny Atkinson dans le staff.
Faut qu'on appelle Kenny Atkinson, pourquoi pas. Mais je crois que Kenny il est occupé en NBA.
Oui, mais il avait fait une offre de service dans Basket Time.
Il avait fait une offre de service, mais pas pour être assistant, je pense que pour être coach.
Alors Kenny, voici ton boss, Vincent Collet. Je t'ai interrompu, Jojo, tout à l'heure sur la stratégie. Tu penses qu'on va revenir à un jeu un peu plus défensif à l'européenne? C'est obligatoire ou ça dépendra des joueurs?
Pour moi, c'est obligatoire de revenir à une assise européenne. Et en fait, pour compléter ce que dit Steve, moi je suis totalement d'accord. On est tombé dans une sorte de routine de train-train depuis quelques temps dans cette équipe de France, à trop se reposer sur nos qualités athlétiques et peut-être nos individualités. Et là, le fait que Tony ait employé le mot honte, que ce soit Tony Parker qui le dise, peut-être, je dis bien peut-être, j'ai absolument aucune info, c'est juste mon ressenti, que nous on le dise dans les podcasts, que nous on le dise dans les émissions RMC, c'est bien, mais ça n'a pas forcément beaucoup d'impact sur le staff de l'équipe de France, je pense. Que ce soit sorti dans la bouche de Tony, peut-être, en tout cas j'espère que ce sera positif pour les Jeux.
Ne sous-estime pas l'impact de Basket Time sur RMC. Tous les mardis en podcast sur rmc.fr. On va parler des autres équipes, bien sûr, de cette Coupe du Monde et notamment des Américains. Que vaut véritablement Team USA?
Austin Reeves, steps back. It's good. Grant Hill likes what he sees. Drives in, hooping and scooping. Just great body control. Gets it back to Edwards. Behind the arc, another three for Edwards. Procedo, what are you doing? And the alley-oop! And Banchero this time.
What do you call this?
Between the legs, alley-oop pass?
Yes! I'd love it, Jeff, yes!
Alors, les Américains qui sont venus avec une jeune génération de joueurs talentueux et prometteurs se sont baladés en quart de finale face à l'Italie, mais il y a quand même eu un couac. Il y a quand même un couac face à la Lituanie. Alors, la Lituanie qui, pour le coup, n'est pas allée plus loin, hein, puisque la Lituanie a perdu contre la Serbie, donc c'était peut-être juste un accident. Maintenant, vous allez me dire ce que vous pensez de cette Team USA version 2023. Paolo Banchero, Mikal Bridges, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Josh Hart, Brandon Ingram, Jaren Jackson, Cam Johnson, Bobby Portis, Austin Reeve et Walker Kessler. Alors, sur le papier, c'est pas les meilleurs. Ok, il y en a d'autres en NBA, mais toi, Steve, tu nous as toujours vendu. C'est les meilleurs de demain. Est-ce que tu le penses toujours après les quarts de finale de cette Coupe du Monde?
Ouais, je le pense. Je pense qu'Anthony Edwards sera un des meilleurs joueurs NBA d'ici 2-3 ans. Je pense que Tyrese Haliburton sera un des meilleurs meneurs NBA d'ici 2-3 ans. Idem pour Paolo Banchero. Il y a des garçons qui vont être. Jalen Brunson a montré cette année que c'était une superstar NBA. Donc je pense que c'est une très bonne équipe de basket.
Qu'est-ce que tu as vu là sur la Coupe du Monde, collectivement, dans leur progression, etc.?
Collectivement, ça reste du Team USA. Hein. Ils produisent pas un Spurs basketball de 2014 non plus. Mais enfin, alors, une seule fois, je pense, où ils ont pas défendu, c'est contre la Lituanie où ils ont laissé prendre confiance. Ils étaient à 9 sur 9 à 3 points les Lituaniens. Et après, tu sais comment c'est quand tu dois défendre sur une équipe qui est en feu, c'est compliqué. Là, contre l'Italie, alors l'Italie était peut-être un peu plus faible que la Lituanie. Et encore, ça reste à voir. Les attitudes défensives, ils ont étouffé les adversaires. C'est une équipe qui humainement, je le trouvais très bien, très cohérent. J'ai regardé un peu les attitudes et tout ça, j'ai trouvé ça très bien, ce qu'ils ont pu proposer en termes d'alchimie collective. Maintenant, ils ont un problème, c'est qu'ils ont du mal à être constants 40 minutes. Ils ont la fâcheuse tendance à plutôt mal débuter les matchs. Et contre l'Italie, c'était pareil. Jaren Jackson fait deux fautes. Ils sont menés sur le début de rencontre. Mais j'aime bien la réaction après. Après, ils ont des joueurs de qualité supérieure. Pierrot, Haliburton est fantastique. Michael Bridges, je ne sais pas encore une superstar NBA, mais sa fin de saison, quand il a été tradé à Brooklyn, il a quasiment fait partie des meilleurs marqueurs de la ligue. Il y a des bons joueurs de basket et ils vont être, pour moi, ils vont être compliqués à être à
Et tu crois que c'est cette équipe-là qui sera au JO à Paris dans un an?
Non,
il
n'y
aura pas du Kevin Durant en travers, du
Steph Curry. Le problème pour ces garçons-là, c'est qu'ils sont dépendants des superstars pour les Jeux à Paris 2024. Si Curry, Durant, LeBron James disent « nous, on veut être au JO à Paris 2024 », grand-il, lequel patron de Team USA, il va forcément les accueillir. Mais je pense qu'il y a quelques garçons qui sont dans cette Coupe du Monde-là qui seront malgré tout à Paris 2024.
Geoffrey, qu'est-ce que tu penses de Team USA ?
Team USA, pour moi, sur cette Coupe du Monde, ils font du Team USA, c'est-à-dire que Steve l'a dit, offensivement, il n'y a absolument rien à dire. Aujourd'hui, on enregistre le podcast mardi, après la démonstration face aux Italiens en quart de finale, ils les ont limités à un peu plus de 60 points, c'est très bien. Mais déjà, il y a eu la défaite face à la Lituanie, face au Monténégro, ça a été très compliqué. Ils se font bouffer au rebond offensif parce qu'ils n'ont que des petits, et donc forcément, les équipes adverses arrivent à gober plein de rebonds offensifs. Donc ça, je pense que peut-être pas
Rudy
pour Gobert. Elle est excellente, bravo. Pour la fin
tu
du tournoi,
bougé ça... par Geoffrey maintenant.
Pour la fin du tournoi, ça peut être un petit peu problématique, mais. Je sais pas, toi Steve, qui a vu le match depuis la salle, j'ai l'impression que défensivement, il y a une certaine nonchalance de la part des Américains, parce qu'ils savent qu'athlétiquement, ils sont au-dessus de tout le monde, parce qu'ils savent qu'ils peuvent réussir à combler un mètre de retard avec seulement deux pas sur une sortie d'écran. J'ai l'impression qu'ils font pas tous les efforts nécessaires pour prétendre aujourd'hui à être favori numéro 1.
Est-ce que c'est pas leur péché mignon naturel et inévitable après, quand
oui, mais moi,
petit, tu te sens au-dessus, que tu le sois ou pas, tu es né aux États-Unis, tu joues au basket en NBA, tu te sens supérieur, tu peux faire ce que tu veux, un travail sur toi-même, de l'humilité, après, ce que tu veux, après, tu te sens supérieur.
Non, ils ont mis une pression aux Italiens. Logique. Les Italiens, ils ont dû respirer avec une paille. Hein,
c'est compliqué. Je trouve dur, Geoffrey, par rapport à ça, justement, parce que on l'a vu, les Italiens, quand ils mettent la pression vraiment, les Américains, ils peuvent pas jouer. Alors, tu as dit plusieurs shoots. Pour moi, par rapport aux Jeux Olympiques, c'est un peu leur fenêtre internationale, les Coupes du Monde aux Américains. Ouais. C'est assez surprenant. Mais nous, on a nos fenêtres internationales pour faire nos tests, pour voir un peu qui peut jouer. Et finalement, c'est ce qui se passe à la Coupe du Monde pour les Américains. Mais ils l'ont quand même pris du bon bout. J'ai l'impression cette année. C'est-à-dire qu'ils se sont réunis un peu plus tôt, oui. Ils ont travaillé comme il fallait, ils ont construit Exactement. Une équipe, il y a des grands. Alors Kessler, normalement, Walker Kessler, c'est quelqu'un qui n'est pas une superstar, mais c'est un grand, et il n'y a pas beaucoup de grands dans Team USA. Et donc je me dis qu'ils sont en train de le préparer à l'avenir pour pouvoir avoir des grands. En fait, ils ne vont plus en choisissant des joueurs pour prendre des joueurs, ils prennent des équipes, ils travaillent vraiment, et ils s'appliquent à trouver la solution au jeu FIBA. Ok, ils n'ont pas vraiment de solution au départ.
Ils jouent celui-là à Utah, c'est ça ?
Ils jouent à Utah, il a remplacé Rudy Gobert.
C'est celui qui a remplacé Rudy, ouais.
Et rookie. Ah oui. Il était rookie, il fait quasiment un double-double de moyenne, et il a plus de 2 comptes de moyenne en NBA. Donc c'est quelqu'un qui a un vrai potentiel, on l'a vu, il est long, il est intéressant. Donc je pense que.
Est-ce que c'est des stats, entre guillemets, parce que moi, je vous avoue, là, Utah, moi, je maîtrise pas. Est-ce que c'est des stats, c'est des vraies stats d'intérieur dominant, ou c'est des stats parce qu'en NBA t'as 25 ballons et que tu finis par gober
quand
des rebonds? C'est une question naïve,
quand rookie,
je sais pas.
Quand t'es rookie, c'est des bonnes stats pour.
C'est des bonnes stats, et je te dis, c'est plus pour l'avenir que c'est intéressant pour Team USA. Je le disais, en termes de pivot, il n'y a plus vraiment de pivot dominant américain, donc t'es obligé de commencer à les prendre un peu tôt, à les habituer à ça, et je trouve ça hyper intéressant. Donc moi je pense qu'ils ont fait le taf, qu'ils sont durs, ils défendent dur. Et je trouve qu'on leur fait un petit peu un procès d'intention, parce qu'il y a effectivement il y a du potentiel, et c'est là que tu te rends compte aussi qu'il y a un différentiel entre la FIBA et la NBA. Brandon Ingram, c'est un de mes joueurs préférés de NBA. Quand il joue en FIBA, on a l'impression qu'il joue aussi bien que Geoffrey Charpie.
Ah ouais, carrément,
c'est sympa,
ouais.
Ça.
Ouais, c'est méchant. Ouais. C'est méchant pour les deux.
non, mais blague à part, et Geoffrey, il sait que je l'adore, mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'on voit là la différence de lecture, d'espace, du fait qu'il ait beaucoup plus le ballon. Il faut se réhabituer, c'est quand même des stars dans leur équipe, même si c'est des stars qui sont montantes, c'est des stars dans leur équipe, et apprendre à jouer sans ballon, apprendre à jouer sur des règles FIBA, eh ben c'est pas aussi évident que ça.
Après Fred, pour revenir sur le cas Brandon Ingram, et tu l'as dit, c'est un garçon qui avec les Pelicans monopolise 90% du ballon.
Oui, c'est pour ça.
Et il arrive à Team USA où là il faut partager la balle et le ballon parfois il est en bout de chaîne, mais ils ont des soldats et les mecs qui sont bons avec Team USA, c'est des mecs qui ont des rôles un peu comme ça en NBA. Michael Bridges a toujours été un soldat notamment à Phoenix, donc ça lui va très bien. Josh Hart qui est un soutier de l'espace et qui se met des pelées défensives, Austin Reeves aux Lakers pareil. Donc ils ont des garçons qui pourquoi ça fonctionne, ils ont des garçons qui ont NBA, ne sont peut-être pas les go-to guys mis à part Anthony Edwards. Et Brandon Ingram, bah lui il est perturbé parce que normalement le il se fait des auto remises en jeu en NBA et hop, il fait la passe à lui-même.
Mais c'est là que je dis que l'équipe est construite, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas aligné des superstars pour gagner. Là ils ont fait une équipe avec effectivement des stars, des joueurs capables offensivement de faire la différence, mais ils ont aussi des meilleurs défenseurs de l'année, ils ont aussi des mecs qui sont capables de défendre, et il y a aussi des soutiens.
Oui, mais quand tu dis aligner les joueurs, est-ce qu'ils n'ont pas été un petit peu obligés de les prendre, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire les Jeux Olympiques de Paris 2024 et qui ont fait entre guillemets un petit peu l'impasse sur cette compétition en disant je veux pas faire le mondial cette année.
Après Geoffrey, je te rappelle que Triangle a fait un énorme lobbying pour être avec Team USA et ils l'ont pas pris. Ils l'ont pas pris parce que peut-être que Steve Kerr a estimé que Triangle
joueur collectif moins.
Oui, voilà, peut-être c'est pour ça que Steve Kerr a préféré prendre Jalen Brunson et Tyrese Haliburton. Donc il y a des joueurs qui voulaient venir, mais après, on parle de préparation, on parle de collectif. Je vous rappelle que Team USA, ils sont champions olympiques, ils ont zéro entraînement ensemble. Hein. Ouais. Merci Kevin Durant et merci les superstars NBA. Donc à Paris 2024, je vous espérais qu'il va y avoir une préparation, mais s'ils ramènent tous les mutants qu'il y a dans la ligue, je vois pas, mais je veux bien qu'on soit très fort, hein, mais même si avec Joel Embiid et Victor Wembanyama, ils vont pas être cadeaux à prendre.
Mais un mot sur Paolo Napoléon James Banchero, c'est son nom complet quand même. Ouais. Rookie, grosse saison quand même. Aussi,
hein. Un vrai Italien en plus dans l'âme, quelqu'un qui a sa patrie dans le cœur. C'est important ça aussi. Hein.
Vrai numéro 1 de draft là. Enfin vrai numéro 1 de draft. Oui, il a répondu aux attentes.
Il a assumé son statut numéro 1 de draft, Paolo Banchero.
Vous allez l'écouter, Paolo Napoléon.
Vas-y.
You have a message for the Italian fans.
Non.
On dirait Ancelotti.
Non, mais c'est parce qu'il y avait un journaliste qui lui demandait s'il voulait laisser. Il y avait un journaliste qui lui demandait après un entraînement s'il avait un message à faire passer aux Italiens, et donc il a répondu.
Non, mais c'est un vrai Américain, non?
Mais il a quand même bluffé.
Il n'y a pas de polémique.
Il a bluffé sa fédération.
Je crois que c'est son père italien ou sa maman. Alors,
il a la double nationalité, mais il est né aux États-Unis en tout cas. Hein,
donc, oui, il est né aux États-Unis, mais il était chaud sur l'Italie avant de comprendre que peut-être que Granty lui fasse un petit peu de rentre dedans et de séduction en disant finalement Team USA, je peux jouer. Bah, il est parti sur Team USA.
Bon, pour finir sur Team USA, est-ce qu'ils seront champions du monde? Est-ce qu'ils vont gagner la Coupe du Monde là? Un petit tour de table vite fait. Jojo.
Franchement. La finale rêvée États-Unis-Canada, je mets une pièce sur Canada.
Ah vraiment? Ouais. Ah, intéressant le Geoffrey. Après, bon, c'est pas grave, il sera ridicule dans quelques jours, mais s'en fout. J'aime bien. Pourquoi?
S'en fout, il revient plus, sa dernière émission.
Pourquoi? Non, mais dis-nous.
Parce que le Canada m'a fait une meilleure impression globale pour l'instant sur ce début de compétition. Et je trouve qu'athlétiquement.
Canada, ils t'ont fait une belle impression contre le Brésil et le Canada?
Non, d'accord, mais les États-Unis.
Aussi les États-Unis contre la Lituanie.
Exactement. Et contre le Monténégro également, les Ricains, je les ai trouvés en difficulté.
Fred? Ah, regarde pas, il hésite aussi. Hein.
J'hésite, moi aussi, bien sûr, je rêve de cette finale de Canada-USA. Je mettrai une pièce sur les États-Unis parce que je pense qu'ils ont quand même un roster plus profond, une profondeur de banc plus intéressante.
Une petite pièce alors.
Mais voilà, petite piécette parce que le Canada, c'est fort.
Attention, le Canada, c'est pas gagné encore. Hein, parce qu'ils ont un parcours bien plus difficile que les États-Unis avec la Slovénie de Stephen Brown. Et après, peut-être l'Allemagne ou la Lettonie, c'est pas cadeau. Hein.
Ouais, c'est pas cadeau, mais en même temps, si tu veux être champion du monde,
oui,
tu vas toutes les équipes.
Les États-Unis ont un parcours plus tranquille. Steve?
Je crois que déjà, Pierrot, il me semble que tu as fait une erreur parce que si
ça
le Canada bat la Slovénie, je crois qu'il joue la Serbie.
Ah, pardon.
La Serbie, ouais, attention aussi.
La Serbie joue le gagnant de Canada-Slovénie.
Ouais, bon, oui, parce que ce qui est bizarre, c'est que
Canada-Slovénie, c'est pas cadeau quand même.
Non, c'est pas cadeau. En fait, ce qui est bizarre, c'est que les deux quarts d'aujourd'hui, en fait, c'est pas ceux qui
se rencontrent. Oui, ça croise pas comme
voilà.
Ça, ouais, j'ai fait une erreur.
Exactement.
T'as raison.
Moi, je vais aller sur les Américains parce que je pense qu'ils peuvent aller plus haut encore en termes de sérieux dans le jeu. Je pense qu'ils ont une petite marge. Et plus les matchs importants vont arriver, et plus ils vont être concentrés, et plus ils vont développer un basket supérieur à ce qu'ils ont montré. Voilà. Ils ont une marge de progression encore qui est plus haute que les Canadiens.
Juste pour rajouter juste un petit truc, j'ai trouvé que le coach canadien parfois quand c'était un petit peu dur, le coach canadien-espagnol plutôt, j'ai trouvé un petit peu limite. J'ai trouvé qu'il manquait un petit peu le truc, alors que là, il y a quand même Steve Kerr et Spoelstra du côté des États-Unis.
C'est un Basket Time spécial Coupe du Monde sur RMC, que vous téléchargez bien sûr tous les mardis sur rmc.fr. On va revenir à l'équipe de France tout de suite.
Parker qui a l'écran de Joanne Pietro pour peut-être le panier à 3 points.
Toute la bonne défense de Tony. Gazol à 3 points, c'est raté.
On va gagner. On va gagner.
Aginça, j'ai la balle. Pietro, ils ont les bras les uns sur les autres. Batoum, c'est fini. Champion d'Europe de basket, messieurs dames. C'est inique, c'est historique.
C'est terminé. La France s'incline en finale des Jeux Olympiques. Mais on est fiers de vous. 87-82, la troisième médaille de l'histoire des Jeux Olympiques pour le basket français. La deuxième en argent après Sydney 2000. Bravo messieurs.
Et voilà Antoine Rigaudot. Et 3 points. Comme on dit aux États-Unis, in your face.
Alors, François Giuseppe, Jacques Monclar ou Arnaud Valadon, Stephen Brun déjà pour démarrer là, comme ça d'entrée de jeu là.
Stephen Brun, Arnaud Valadon.
In your face, gagne tout.
Le in your face, il gagne tout, ouais, mais c'est pas, oui. C'était pas RMC, c'est pour ça que.
C'était France Télévisions.
C'était ouais, France Télévisions. J'ai l'impression que sur. Je crois que c'est la demi-finale, j'ai l'impression que Jacques, il étrangle Giuseppe. Il l'attrape, oui, tu t'entends une vibration, possible, ouais. Il l'attrape par les épaules, il le secoue, on a gagné. Bon, bref, alors, la partie historique, alors là, j'attends ce débat depuis le début de la semaine, je vous attends au tournant,
mardi,
mais faites-moi rêver.
Hein. Début de la semaine, on est mardi.
Ben oui, mais hier, ouais, mais c'est lundi, on a fait le programme lundi. Faites-moi rêver. Partie historique, quelle est la meilleure génération de l'équipe de France entre Sydney 2000, médaille d'argent olympique inattendue, Fred Weiss, c'est vice-champion olympique, pour ceux qui l'ignoreraient encore. Slovénie en 2013, le titre, le grand titre de la génération Parker, champion d'Europe. Donc c'est Tipeee Babak, mais il y a d'autres joueurs évidemment. Et puis Tokyo 2021, nouvelle médaille d'argent olympique, un peu plus attendue celle-ci, revendiquée par les joueurs de l'équipe de France, mais obtenue quand même après une lutte de haute volée. Elle a été dure et elle est d'autant plus savoureuse, cette médaille d'argent. Un petit rappel Geoffrey avant qu'on débatte, présente-nous plus en détail ces trois équipes de France.
Oui Pierre, tu l'as dit, trois générations différentes, mais une seule a donc ramené l'or en 2013. À l'époque, les Bleus remportent l'Euro face à la Lituanie. Derrière les 19 points de moyenne de Tony Parker sur le tournoi, qui a même été élu MVP de la compétition, on retrouve Nicolas Batum ou encore Boris Diaw, des joueurs tous estampillés NBA ou presque. Ce qui n'était clairement pas le cas en 2000, mon petit Pierrot, car oui, il faut se souvenir qu'à Sydney, aucun des 12 joueurs sélectionnés n'évolue aux États-Unis. Alors même si Antoine Rigaudot est alors le patron à Bologne, c'est bien Laurent Sirac qui prend les rênes de la sélection en fin d'Olympiade avec presque 12 points de moyenne. On retrouve encore dans cette équipe des mecs comme Yann Bonato, Stéphane Rizachet ou encore Cyril Julian, trois joueurs évoluant en Pro A à l'époque. Et en 2021, c'est tout l'inverse, tu l'as dit dans ta voix Pierre, les leaders vous les connaissez, le monde entier les connaît, la NBA les connaît, Evan Fournier, Rudy Gobert, Nicolas Batum et un certain Nando Docolo.
Avant que vous me donniez votre avis, dis-nous juste un mot Fred sur Sydney 2000, parce que là Jojo nous a rappelé les grands noms de cette équipe, mais comment ça joue, qui sont les go-to guys comme a dit Steve tout à l'heure?
Alors, il y a évidemment Antoine Rigaudot qui est censé être le patron. Il y a Moussa Fassonko qui se baisse d'entrée et ce qui relance énormément Laurent Sierra et qui le propulse au rang de superstar de cette équipe. Après, tu as des Rizachet, tu as des Forest, tu as Julian, comme il l'a dit. Il y a Jim Bilba, évidemment, Bonato. Voilà.
Il avait déjà ses falzards un peu trop larges, Lolo Sierra, ou pas?
avec des N1.
Il devait jouer avec ses N1, ouais, je crois, en plus.
On le salue, j'espère qu'il écoute Basket Time de temps en temps quand même. Qu'est-ce qu'on s'est régalé avec Lolo Sierra, Steve, quand même, non?
Ouais, bah,
dans
bon,
cette
bon
émission.
Très bon mec.
Alors,
bon.
Maintenant, Brun, il appelait. LeBron James, il appelait Brun. Bon, maintenant, vous allez me donner votre avis. Qui commence? Je ne sais pas si je vais commencer par Fred, parce que lui, alors là, évidemment, je ne sais pas si il va être objectif. Geoffrey, quelle est la meilleure génération des trois pour toi?
Pour moi, même si c'est celle que j'ai le moins connue, je dirais 2000.
Et pour quelle raison?
Parce que en 2000, je l'ai rappelé, il n'y a aucun mec à l'époque qui joue aux États-Unis. Ce sont 12 mecs, 12 potes, alors même s'il y a eu des tensions tout au long de la compétition, qui se retrouvent et qui vont décrocher une médaille olympique d'argent face aux États-Unis. À l'époque, on n'est pas leurs voisins de chambre en fait aux Américains. Fred me racontait il y a quelques semaines que certains à l'époque ils avaient des posters des requins dans leur chambre quand ils les affrontent. Et en fait, je trouve que c'est là que c'est d'autant plus fort de ramener une médaille dans ces cas-là où en fait on joue contre ces idoles en fait. Alors en 2013, bien
mais
évidemment.
Attention, là tu me parles plus d'exploit en fait.
Oui.
Là tu es en train de me dire que c'est le plus grand exploit, je peux te suivre. Mais est-ce que c'est la génération était plus forte
mais
que les
alors
deux
après
autres?
Je dirais que et encore une fois c'est celle que j'ai le moins connue donc j'espère que Fred va choisir 2000 pour m'aider un petit peu mais je trouve que
explique-moi un truc pourquoi tu parles d'un truc que t'as pas connu
parce que forcément on se renseigne quand même
je parle des pyramides parfois et j'ai pas connu
j'ai rarement entendu parler des pyramides
et ben c'est que tu m'écoutes pas assez c'est ça notre problématique on n'a pas de discussion hors basket qui fait
on va dire Ramsès 2 ou
tout en camon
qui était le plus fort. Continue Geoffrey.
Pour moi je trouve que c'était plus il y avait plus une alchimie à travers tout un collectif plutôt que une ou deux individualités comme on peut les ressortir en 2013 avec Tony qui a marché sur la compétition ou encore Boris qui tourne à 12 points de moyenne. Là il y avait des mecs comme Rigaudot, Ciara, Bilba, Sonko, Weiss, Julien et en fait je trouve que c'est le collectif qui me plaît plus plutôt que les individualités comme on a pu voir.
En fait c'est Fred qui t'a écrit ton papier.
Non pas du tout. Pas du tout parce que je vais dire la vérité, à la base Fred voulait prendre 2013. Et je lui ai dit réfléchis un petit peu. Et je crois qu'il a changé d'avis.
Après, vous pouvez avoir la même réponse. Hein. Là, c'est pas chacun qui nous raconte une histoire. Là, c'est un vrai débat. Si vous dites tout ce 2013, il n'y aura pas de souci. On va pas jouer un rôle. Vous me dites la vérité de ce que vous ressentez réellement.
Hein. Moi, si tu me permets, je vais juste recontextualiser pour la plupart des gens. Et effectivement, quand on regarde les noms, c'est pas des gens qui ont joué à NBA, mais parce qu'à l'époque, jouer à NBA, c'était quelque chose qui était impossible, extrêmement rare, etc., etc. Donc c'est pour ça que.
Alors vas-y les noms.
Que les noms que j'ai cités, Bilba, Ciara, Rizaché, Forest, Julien, Rigaudot, Bonato, Sonko, c'est des joueurs qui étaient d'un niveau incroyable.
Sans oublier Boulanger. Hein.
Confort Palmer, c'était quand même un temps en dessous, hein, ouais. À mon sens. Mais par exemple, quand tu parles d'un Mustapha Sonko, un Mustapha Sonko à notre époque jouera en NBA largement.
Ah oui.
Enfin, pour moi, c'est le joueur qui aurait le plus pu jouer en NBA de cette génération, oui.
Donc, peut-être plus de densité dans cet effectif que dans les autres.
En fait, moi, je...
Toi, quel est ton avis sur la question, sur
alors,
le débat
mon avis sur la question, c'est quand on m'a posé la question, justement, je me suis dit, attends, quand il y a Dio et Parker dans la même équipe, difficile à dire que c'est pas l'équipe avec le plus de talent, déjà. Sauf que j'ai pris poste par poste et je me suis dit... finalement, elle n'est pas dégueu cette équipe de 2000 parce que sur le poste de meneur, tu as Antoine Rigaudot, tu as Laurent Tira, tu as Mustapha Sonko, comme je le disais, un gros potentiel. À l'extérieur, tu as Rizaché, un joueur incroyable qui aurait peut-être même pu jouer à NBA lui aussi. Un Laurent Forest qui était un shooter incroyable, Bonato et un Rigaudot qui aurait pu se décaler aussi, qui est un des meilleurs joueurs de France. Après, à l'intérieur, tu as Jim Bilba. Franchement, je pense que tout le monde respecte un petit peu pour Jim Bilba. Et à l'intérieur, il y a Cyril et moi. Et alors, peut-être qu'on est dominé par la génération 2021 à l'intérieur, ça je suis d'accord, mais j'ai pas l'impression que cette génération 2013 nous aurait dominé, parce qu'Alexis Agença et Petro, je suis pas sûr que c'était meilleur que nous deux. Donc quand tu prends poste par poste et comme ça...
C'est peut-être plus cohérent,
c'est peut-être plus dense, voilà, mais évidemment, si on doit parler de talent pur, quand je vois Batum, De Colo, Dio et Parker... je peux que pencher pour 2013.
Donc finalement, tu diras 2013.
Je dirais 2013, mais pas aussi, de façon aussi écrasante que je l'imaginais au départ.
Ok, Steve.
Moi, je vais rejoindre Fred sur 2013, hein, parce que déjà, quand tu as juste Tony Parker dans une équipe en termes de talent et de leadership, ça fait la différence. Et puis 2013, parce qu'ils ont gagné. Parce qu'ils ont gagné, en fait, et qu'on n'avait jamais gagné avant et qu'on n'a pas gagné depuis, en fait. Donc, cette génération-là, Stéphane Rizaché, j'adore, mais le problème de Stéphane Rizaché, c'est qu'en face, c'est Michael Gilabal, qui est un Stéphane Rizaché 4.0. et Nico Batum, qui est un Stéphane Rizaché 8.0, même. Non, parce que c'est des grands ailiers longilignes, des bons joueurs de basket. Mais Tony Babak, ça pue le basket sur le poste 4. Moi, c'est Nando De Colo qui a marché sur l'Euroleague pendant X années. On peut comparer Nando De Colo, si on doit rester dans les comparaisons, à Antoine Rigaudot qui a marché sur l'Euroleague pour la génération 2000. Mais alors Fred a raison, peut-être qu'à l'intérieur c'est moins claquant avec Alexis et Petro et Geoffrey Lauvergne. Mais je rejoins Fred. Quand t'as Batum, Parker, Dio, Michael Gélabal dans une équipe, c'est difficile de faire mieux en termes de talent.
Je m'excuse, juste par rapport à Gélabal, j'ai oublié de parler de lui. Effectivement, Mike Gélabal, c'est le summum du summum.
Et 2021, donc vous les mettez un peu en dessous, donc, si j'ai bien compris. Puisque vous m'avez comparé 2000 et 2013 essentiellement.
Oui, oui.
Sans leur faire injure. Bon, c'est vrai que c'est une équipe qui n'est pas complètement différente. Elle l'est, hein, mais de la génération Parker, c'est l'équipe un peu, c'est l'héritière. Mais sauf qu'il n'y a plus Tipeee. C'est ça qui change tout, non ?
Exactement.
Bon, après, il y a beaucoup de talent quand même hein, dans cette génération-là. Bon,
tu sais, quand tu quand t'es deux fois vice-champion olympique et champion d'Europe, il faut un peu de joueurs de talent, hein, Pierrot, dans une équipe.
Messieurs, nous allons nous départager, vous départager sur un quiz pour finir. J'ai pas trop coupé les cheveux en quatre. C'est parti là en premier, c'est parti chez Sting.
Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en premier.
Et là, c'est après ou pas?
C'est Alex.
Le roi des corps verts ménagères.
Ouais, exactement.
C'est plus trash que ça, hein. C'est plus violent.
Fuck you.
Bah, tu te rapproches.
Asshole, motherfucker, son of a bitch.
I lock that shit up, boy. Fermez sa gueule à cette merde.
Tu commences à partir en process qui croit après un titre, ils sont.
Tu peux me laisser parler.
Sacha, il nous manque.
Allez, un bon petit quiz. Un peu en rapport avec la Coupe du Monde. De près ou de loin, vous allez voir. De toute façon, on va s'amuser. C'est le but du quiz. Les Américains qui ont eu un impact en Europe, soit avec une sélection.
Les Américains qui ont eu un impact en Europe.
Voilà, soit avec une sélection, soit avec un club. C'est bon? Tout le monde là?
C'est bon, on est parti.
Allez, Fred, tu te reconcentres. Tu gagnes ce quiz. Allez, c'est parti. On va démarrer avec Lorenzo Brown.
Lorenzo Brown, super.
Lorenzo Brown, j'ai regardé un peu son CV. CV long comme le bras. Donc, je vous donne un club. Vous me dites simplement oui ou non. Il a joué dans ce club. Voilà.
Très bien.
Tout simplement.
C'est simple.
C'est facile. Allez, on démarre avec toi, Geoffrey. Les Phoenix Suns.
Les Phoenix Suns, non.
Eh bien, si.
Excellent. Très bon début de quiz.
Red Base. Les Minnesota Timberwolves.
Oui.
Oui, absolument. Bien Bravo, sûr. Fred. Steve, les Boston Celtics.
Bonjour. Boston Celtics, Lorenzo Brown. Il ne me semble pas, Pierre.
Absolument pas, Stephen. On continue avec Geoffrey Charpie, le Partizan Belgrade.
Partizan Belgrade, c'est oui.
Eh bien, c'est non, c'est l'Étoile Rouge.
C'est le bingo, là, pour l'instant.
Fred, les Golden Bulls. Les Golden
les
Bulls.
Les boules, les boules en or.
Les Golden Bulls de Zhejiang, en Chine. Oui ou non?
Ah, t'as pas pu inventer ce truc.
Eh bien si, il a joué aux Golden Bulls de Zhejiang. Et enfin, Steve, les Shanghai Sharks.
Les Shanghai Sharks, ça c'est en Chine?
Exactement.
Je crois pas, non.
Il a fait plusieurs clubs en Chine, mais pas les Shanghai Sharks. Donc après ce premier petit quiz sur Lorenzo Brown, il y a 2 points pour Steve, 1 pour Fred et 0 pour Geoffrey.
Bravo Geoffrey.
Merci Steve.
Alors maintenant, on va faire un autre jeu. Je vous donne le nom d'un basketteur américain et vous me dites dans quelle sélection il a joué hors États-Unis, évidemment.
Ah, c'est très bien ça, bravo.
Ah, ça vous va ça?
C'est dur.
Geoffrey, Dibost.
Dibost, il a joué pour le Monténégro.
Et pour la Bulgarie.
N'importe quoi.
Fred, Tyler Dorsey.
Tyler Dorsey, il a joué pour la Grèce.
Excellent, bravo. Ouais. Et enfin, Steve, Thad McFadden.
Thaddeus McFadden, il joue pour la Géorgie.
Excellent, bravo Steve.
C'était pas terrible, hein, le rendu de McFadden, c'était pas ouf.
Ouais.
En 2011, lors
c'est tout.
Ah, c'est tout, c'est bon.
Ah, ouais, d'accord.
Okay. Non, on va vite, hein, parfois. Ouais, parfois, il est un peu long ce quiz. Des fois, je réécoute Basket Time, c'est long.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Donc là, on va vite aujourd'hui. 2011, le lockout. 2011. Quel champion, et concentrez-vous, hein, quel champion olympique 2008 et 2012 a joué 15 matchs avec Beşiktaş?
Avec Beşiktaş?
Avec Beşiktaş, champion olympique 2008-2012, avec Beşiktaş en Turquie.
Donc c'est forcément.
Ouais, c'est ça, c'est en Turquie, Beşiktaş, Steve, bravo.
C'est un ricain naturalisé.
Qui a joué à Beşiktaş en Turquie
non,
pendant le lockout?
Non, mais c'est pas un ricain naturalisé, c'est pendant le lockout, il a joué en club.
Alan Iverson club.
Non, c'est pas Alan Iverson, c'est un très connu, hein.
Champion
meneur de
olympique.
Jeu. Très connu.
Mahmoud
Abdelraouf.
Comment tu dis? Non, beaucoup plus connu. Mais redis-le, nous, quand même.
Abdelraouf. Bah, tu connais pas Abdelraouf?
Si, si, mais ça a du mal à sortir. C'est comme si tu vomissais un truc. Et Deron Williams, c'est la bonne réponse, Steve. Il a joué 15 matchs avec Beşiktaş, vous en souvenez pas?
Pas du tout.
C'est
pas
normal.
Du
tout.
Ça m'était sorti de la tête, ça, Deron Williams.
Bravo. Et quel est son dernier club, Deron Williams, avant sa retraite?
Le dernier club de Deron Williams avant sa retraite, c'est...
Je vous dirais
pas Beşiktaş?
Ben non.
Les Suns?
Non.
Cleveland?
Cleveland Cavaliers, bravo Steve.
Oh, c'est un festival.
C'est un festival, bravo, il est mort de rire. Il est à distance, mais il est chaud. Hein. Pourquoi tu rigoles comme ça? Tu triches pas quand même. Non,
je triche pas, mais il y a mes potes derrière moi qui me disent « Dépêche-toi, il y a la Nike qui nous attend, qui me met la pression. »
Ok, on avance vite alors. On devine un joueur. Je vous donne les clubs dans l'ordre. Les clubs dans l'ordre. Les villes, pardon. Je vous donne les villes dans l'ordre. Où il a joué.
Les villes dans l'ordre.
Ouais,
okay.
Mais c'est que de la NBA, vous inquiétez pas. Charlotte.
Charlotte, ouais.
Boston.
Boston.
New York.
Kemba Walker.
Dallas. Monaco. Kemba Walker. Bravo. On va en parler cette saison de Kemba Walker dans Basket Time.
Il a joué à Dallas, c'est un Texan.
Coup d'œil sur le
score. On va déjà Texas. Soigner son genou.
Un petit coup d'œil sur le score. 6 pour Steve, 2 pour Fred, 0 pour Geoffrey. Geoffrey et Fred, vous faites un effort. Ouais. Vous me limitez l'écart à 4 points dans le Money Time. Ça c'est marche. Tout ce que je vous demande. Okay. Sinon, ça n'a aucun intérêt.
Okay.
Voilà, puisque la question multipoint, on peut en mettre que 4 maximum. Okay.
T'as écouté la vanne de Stephen quand même ?
J'écoute pas toutes les vannes de Stephen.
Non. Okay. Pas la peine.
Question : quel triple champion NBA
Quel triple champion NBA
a été champion de Grèce avec le Pana en 98.
Dominique Wilkins. Oh,
non, putain, c'est pas Dominique Wilkins.
Quel champion NBA a été champion avec le Pana en quoi en 2013
NBA. En 98.
En 98 wow. Bah, c'est Dominique Wilkins, non ?
Non.
Avec le Pana ?
Avec le Pana.
Il a joué avec Dominique Wilkins.
Rachel Nesterovitch.
Non, un Américain. C'est un Américain.
Un Américain.
Qui a été champion avec les Lakers.
Champion avec les Lakers.
Oui. Il est connu ?
Il est connu, oui, mais c'est pas le plus connu. Il est connu. Hein. Il est connu.
Ah, c'est n'importe quoi. Ça, là, hein.
Comment tu qu'est-ce que tu dis ? On peut raconter n'importe quoi.
Roberto Ri.
Au Pana ?
Ah, c'est dur, hein.
Non, Roberto Ri, il est pas au Pana.
Mais j'en sais rien, il faut tenter là.
Il est champion avec les Lakers.
Ouais, trois fois champion dans les années
90. Dans les années
90. Dans les années 80.
Dans les années 80.
Ouais, ouais.
Ah, c'est Sid Alstreet.
Ah oui, oui, c'est lui, non, c'est lui. C'est lui, c'est lui.
Sid Alstreet ?
Non, non, c'est pas lui.
Il est mort de rire.
Ah, vous l'avez pas celui-là. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner comme c'est un arrière.
C'est un arrière. Mais gros, tu es en train de me carotter, Pierrot.
Non. Alors, Los Angeles, pendant 10 ans, 3 titres dans les années 80. Ensuite, il a joué à Indiana.
Kurt Rambis ?
Non, c'est plus connu que ça. Hein.
Byron Scott.
Excellent.
Byron Scott.
Plus du tout qu'il avait joué.
Après, le problème, c'est que c'était dur. Il n'y a que Stephen qui cherche. J'avais Fred qui me regardait comme ça, j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson rouge.
Oh, putain, j'avais complètement oublié qu'il avait gagné l'Euroleague.
Ouais,
non, pas l'Euroleague, champion de Grèce.
Ah, j'ai pris l'Euroleague moi aussi.
Ah oui, mais parce que vous avez.
Non,
vous avez le cerveau abîmé, c'est pour ça, c'est tout. Allez, une petite déclaration d'actualité.
Déclaration d'actualité.
Et vous me trouvez son auteur. Je ne me suis mis d'accord avec aucun club, mais j'avais des questions sur mon futur et je n'ai pas vraiment eu de réponse. Je ne sais pas.
Evan Fournier ?
Je ne sais pas si je suis une pièce importante. Je ne sais pas si je suis une pièce centrale.
Ça me dit quelque chose.
Si je fais partie du plan, mais on m'a dit de rester, donc je suis là.
Ah, je sais qui c'est.
Moi, je sais pas.
C'est très facile.
Je sais qui c'est.
Tatoum ?
On m'a dit de rester.
C'est très facile.
Je suis resté. Je sais pas si c'est une pièce importante. Je sais qui c'est.
Non, c'est à
Monaco.
C'est en Europe.
C'est à Monaco. C'est Mike James.
Mais c'est pas vrai, c'est pas des poissons rouges, c'est des calamars.
Je l'avais lu en plus.
Mais c'est des calamars.
Plus,
Steve, ils sont là, ils attendent que tu donnes la bonne réponse.
Et les calamars ont beaucoup de cerveau, hein. Je te remercie.
Le problème, c'est que j'avais une question multipoint à 4 points, c'est mort là. Oh là là, bon, allez, c'est pas grave. Qui est MVP de la Coupe du Monde de basket 2014 en Espagne ?
2014 en Espagne, 2014. MVP, c'est Tony Parker.
Non.
Non, c'est n'importe quoi.
C'est pas... Romeo
c'est pas... c'est en 2014
Yul. Mais pensez au thème du quiz. Enfin.
Yul.
Derrick Rose.
C'est
Kevin Durant.
KD.
Non.
Melo. Carmelo.
Non.
Ah. Kevin Durant.
LeBron.
On a déjà parlé d'Ambassade.
Anthony Davis.
Non.
Vous avez Kyrie Irving.
Kyrie Irving, oui.
Putain.
Après, il y a des mecs qui ont très envie de sortir à Manny qui souffrent toutes les bonnes réponses à ce qu'il C'est la vérité ou pas ?
Ben non, parce qu'ils entendent pas. J'ai le casque.
Bon, alors donc là, c'est un carnage.
Mais c'est vrai qu'ils essayent de m'aider quand même.
Il y a 9-2. Alors, une dernière question. Bon, il y avait 4 points en jeu. Bah, on l'a fait ou on l'a fait
Oui, bah, on l'a fait.
Ouais, bah, je te propose, tu l'as fait entre Geoffrey et Fred pour savoir qui termine dernier.
Allez, on fait ça. Geoffrey et Fred, donc c'est aux enchères.
Ouais.
Shane Larkin a joué dans 4 franchises NBA. Un point par franchise, mais c'est aux enchères que ça se joue. Geoffrey, première enchère. Tu peux dire 4 d'entrée. Hein. Si tu as envie, si tu les as, vas-y.
Non. Ouais. Allez, 3.
3. Fred.
Je laisse. Ah.
Tu laisses.
Geoffrey, je suis sûr qu'il n'a pas les 3.
Mais non, j'en ai même pas une.
Sois honnête, j'en avais combien, Fred ?
Moi, j'en avais 2 peut-être.
2 peut-être. Et toi, Steve ?
Après...
T'as les 4 ?
Moi, je pense que. Non, j'ai pas les 4 sur Shane Larkin. J'en ai 2 sur.
Il y en a
2
sur. Ouais,
alors, vas-y, Jojo.
Il y a Brooklyn et Dallas.
C'est excellent.
J'en avais 3 alors.
Boston.
Excellent.
Et la dernière, je crois peut-être qu'il est allé au Nets, au New York Knicks.
Excellent, t'avais les 4, tu marques 3 points, c'est donc
le
bon Eden.
Bravo,
Geoffrey.
Merci,
Fred. Tu vois, tu finis sur une bonne note.
Merci,
je suis content pour toi.
Ah, ça me fait plaisir.
Bravo
merci beaucoup,
à Steve
Pierre.
Qui a remporté ce quiz à la semaine prochaine.
Ciao.
RMC Basket Time.